Merci d'écouter Radio Capi, c'est l'heure du journal.
Radio Capi.
Jocelyne Moussaou Pondé.
Préoccupé par la recrudescence des attaques armées dans l'est du pays, la MONUSCO s'est dit déterminée à s'adapter aux contraintes sanitaires de l'heure pour poursuivre les actions de protection des civils et d'appui aux forces de sécurité congolaises. Des kits de prélèvement, des échantillons, des thermoflashs et des désinfectants, le Sankourou vient de recevoir du gouvernement central 2 tonnes de matériel de lutte contre le nouveau coronavirus. Les efforts sont en cours pour élargir la capacité de dépistage quotidien de cas de Covid-19. C'est ce que nous dira notre invité, le docteur Jean-Marie Kayembe, responsable de la prise en charge médicale des cas de cette maladie en RDC. Bonjour à tous. La MONUSCO s'est dit préoccupée par la recrudescence des attaques de groupes armés locaux et étrangers dans l'est de la République démocratique du Congo, dans un contexte dominé par la pandémie de Covid-19. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC a souligné hier la détermination de la mission onusienne à s'adapter aux contraintes et à poursuivre les actions de protection des civils et d'appui aux forces de sécurité congolaises. C'est là, dans le strict respect des recommandations sanitaires. Jean-Pierre Elali Ikoko nous résume ici le communiqué de la mission onusienne.
Le communiqué de la MONUSCO évoque plusieurs cas d'insécurité dans l'est du pays. D'abord en Ituri, où les territoires de Djougou et de Mahagi sont les théâtres de tueries contre les populations civiles depuis plusieurs mois. La MONUSCO a multiplié ses patrouilles dans les zones les plus vulnérables et intensifié son soutien logistique aux militaires congolais, notamment en matière d'évacuation médicale des soldats blessés ainsi que le vol des reconnaissances. Puis dans le sud Kivu, où les tensions dans les hauts plateaux se sont aggravées ces dernières semaine. Les casques bleus ont déployé là aussi plusieurs bases avancées en soutien au FRDC permettant de contenir la situation et limiter l'action des groupes armés. La mission facilite le déploiement de renforts FRDC, les transports d'équipements et les évacuations médicales. Enfin, au Nord Kivu, la mission poursuit son appui au FRDC dans leur lutte contre les ADF. Devant cette situation un peu plus préoccupante, la chef de la mission, Leila Zerougui, rappelle la nécessité de poursuivre les efforts de stabilisation en suivant une approche globale. D'un côté, fermeté et pression maximale sur ceux qui refusent de rendre les armes et de l'autre, mise en place des mécanismes de résolution pacifique des conflits.
Sur terrain, la MONUSCO a renforcé ses troupes depuis la semaine dernière dans le territoire de Djougou, précisément autour de Fataki. C'est pour prévenir les attaques contre la population civile par les assaillants de la CODECO. La présence de ces casques bleus est saluée par la population locale, souvent victime des exactions de ce groupe armé. Cependant, les habitants plaident pour que la base onusienne soit rapprochée de l'endroit où se concentre la population pour plus d'efficacité. Ils l'ont dit mardi à une délégation de la MONUSCO Bounia en visite dans la région. Jean-Claude Loki revient de Djougou, voici son reportage.
Cette base temporaire de la MONUSCO est installée à Djaïba, située respectivement à 5 km du centre commercial de Fataki et à 7 km de la paroisse catholique. C'est ici d'ailleurs que sont érigés 3 sites qui hébergent plus de 3000 personnes déplacées. Pour cet enseignant, le danger est toujours permanent. Gustave Lokana.
Ils sont bien sûr quand même à Djaïba, c'est bien. Mais l'insécurité comme telle, c'est du côté de la paroisse. Alors s'il n'y a pas de déploiement, je pense que les déplacés vont demeurer dans leur site.
Mais pour la MONUSCO, le choix du site où est placée la base de ces soldats de la paix se justifie pour des besoins stratégiques. Cependant, le commandant des forces de la MONUSCO en Ituri n'exclut pas la possibilité de déménager cette base vers un autre site en cas de besoin. Le général Abou Mohamed.
Parce qu'en cas d'attaque, nous avons la flexibilité de nous mouvoir dans toutes les directions. Toutefois, j'ai instruit le commandant de la base de se renseigner s'il ne pourrait pas avoir une autre place plus accessible qui satisfasse aux besoins de la population.
Avant Fataki, les responsables de la MONUSCO en Ituri se sont rendus à Bayo, dans la chefferie de Bayama Badjere, en vue de s'imprégner également de la situation sécuritaire et humanitaire dans la région. De retour de Djougou, Jean-Claude Loki Dile, Radio Okapi.
Au Ouvrons à présent notre chapitre consacré au Covid-19. Les habitants de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga ont vécu hier mercredi un confinement de 24 heures, une occasion offerte à l'équipe de Riposte d'intensifier ses recherches pour retrouver ceux qui seraient entrés en contact avec le malade testé positif au coronavirus à Lubumbashi. Le maire de Kasumbalesa et la société civile se félicitent du respect de cette mesure par la population. Retour sur cette journée de confinement à Kasumbalesa avec Jean Gandou.
C'est tôt le matin que les policiers et militaires ont barricadé les différentes voies d'accès à Kasumbalesa, notamment la route Lubumbashi, la route Sodimiko ainsi que celle menant à Sakania. Même les célèbres Bilanga, qui sont les routes des contrebandes par lesquelles passent frauduleusement les marchandises, ont été bloquées, nous apprenons de Kasumbalesa. Seuls les membres du corps médical, les commissionnaires en douane et les journalistes étaient autorisés à franchir les barrières après avoir exhibé la carte de service. Les bus de transport en commun et les taxis-motos n'étaient pas visibles sur les artères. La douane a fonctionné normalement. Pendant ce temps, l'équipe de Riposte arpentait les rues à la recherche des contacts du premier malade qui est passé par ce poste frontalier avant de poursuivre son voyage à Lubumbashi. Ce temps de confinement a été aussi une occasion pour l'équipe de Riposte de tester ceux qui avaient travaillé à la frontière le 11 avril dernier lors de l'entrée de l'homme de 58 ans testé positif au coronavirus et qui est admis au centre d'isolement à Lubumbashi. Le maire de Kasumbalesa ainsi que la société civile se félicite de l'adhésion massive de la population à l'appel leur lancé par le gouverneur de rester à la maison. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Difficulté de dépistage du coronavirus en RDC. Tous les tests sont actuellement effectués à l'INRB, l'Institut National de Recherche Biomédicale à Kinshasa, ce qui fait dire à certains Kinois que les cas réels du Covid-19 pourraient être plus nombreux que ce que présentent les chiffres officiels. Le docteur Jean-Marie Kayembe du secrétariat technique de la riposte au Covid-19 se veut, lui, rassurant. Les efforts sont en cours pour élargir la capacité de dépistage au quotidien des cas de Covid-19, affirme-t-il. Michel Kifinda Ngoy nous fait le point.
Interrogé par Radio Okapi, plusieurs Kinois avouent avoir eu des signes inquiétants apparentés au Covid-19, mais n'ont jamais réussi à se faire dépister dans un hôpital. Témoignage.
Moi, j'ai senti des malaises. Tu poses la question, on vous donne le numéro sur lequel il faut appeler. C'est un qui passe. Vous posez les problèmes. Est-ce que vous avez été en contact avec un cas de Covid? Vous dites non. Là, les cas ne les intéressent plus. Je suis allé dans un hôpital et là, on me dit qu'on ne peut pas me faire ce test-là. Ce n'est pas normal qu'on ne soit pas en mesure de faire un test de Covid.
Malgré toutes les mesures barrières mises en place par l'autorité publique, la population ne les observe pas fidèlement, s'inquiète ceux qui noient.
Nous sommes inquiets parce que autour de nous, nous avions des personnes qui ont présenté des symptômes. Mais du côté de l'équipe de la riposte, nous ne recevons pas des réponses appropriées. Le problème se situe au niveau de la communication.
En réaction, le responsable de la prise en charge des cas de Covid-19 en RDC invite tous ceux qui ont des symptômes de grippe et fièvre à s'adresser à la zone de santé la plus proche et toute la population d'observer rigoureusement les mesures barrières pour limiter la contamination.
Je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal, la province du Sankuru vient de réceptionner son premier lot de matériel de lutte contre le Covid-19. Cette dotation de 2 tonnes de matériel provient du gouvernement central. Elle comprend notamment les kits de prélèvement des échantillons, les thermoflashs, les désinfectants et les tenues des soins. Antoine Oyoko, chef de division provinciale de la santé intérimaire, présente le plan de distribution de ce premier lot. Il est joint au téléphone par Esther Ndalafina.
Nous avons reçu 2 tonnes de matériel de lutte contre la pandémie pour la province du Sankuru. Nous avons reçu le masque, le botte, les tenues, un lot de désinfectants, un lot de sacs pour les infirmiers, ainsi que les tenues des soins, les kits de prélèvement des échantillons. Il y a aussi le thermoflash, mais il y a d'autres cartons que nous allons déballer sur place à Lusam. On va respecter le plan de distribution par poule. Nous avons 7 poules et chaque poule représente un territoire. Et chaque territoire regorge plus ou moins 2 ou 3 zones de santé, sauf Lodja, qui a dans son pôle 4 zones de santé, dont la zone de santé d'Omenjadi, de Vanga, de Toto et Lodja lui-même. Vous trouverez que le reste des pôles n'ont que 2 zones de santé ou 3 zones de santé. Il lui semble lui-même à 2 zones de santé, dont la zone de santé de Nyamutombo et de Lusam. Donc chaque administrateur du territoire a son plan. On fait le déballage, on emballe maintenant par pôle et on commence à convoyer par territoire.
Évolution du Covid-19 en RDC, la barre de 500 malades atteinte avec les 9 nouveaux cas confirmés enregistrés hier à Kinshasa. On note 6 nouvelles guérisons et un décès, ce qui porte à 31 le total de décès et à 65 celui des guéris depuis le début de l'épidémie dans le pays. 330 patients sont en bonne évolution et les 7 provinces touchées restent Kinshasa, le Nord et le Sud Kivu, l'Ituri, le Kwilu, le Haut-Katanga et le Congo central. Dans le reste de l'actualité, la ferme Navyundu de la faculté de médecine vétérinaire de l'université de Lubumbashi a été pillée par les riverains depuis le week-end dernier jusqu'au début de cette semaine. La plupart des biens, dont les bétails, ont été emportés pour les doyens de cette faculté. C'est un coup dur que vient de subir cette faculté qui ne peut se relever qu'avec l'intervention de l'État congolais. On écoute le professeur Malango Mposhi, doyen de la faculté de médecine vétérinaire, au micro de Jean Gandou.
Ils ont tout pris. Ils ont saccagé les maisons jusqu'à vouloir emporter les murs des préfabriqués, les tôles, tous les animaux, des chèvres, des moutons, des lapins, la volaille. On a démoli les serres, les grillages emportés. Mettez-vous à la place d'une faculté de médecine vétérinaire telle que la nôtre, qui est une faculté technique, qui fonde son action rien que sur la réalité des terrains. On nous fait ça après qu'on venait encore de nous spolier la ferme d'en face. Je manque de mots et je suis tellement touché, je ne sais pas quoi vous dire même. En tout cas, je m'en remets à Dieu. Parce que les coups que nous venons de subir successivement, ça a traumatisé et les professeurs. Et je suis sûr que les étudiants là où ils sont fortement traumatisés car nous ne comprenons pas ce qui arrive à la faculté de médecine vétérinaire qui voit à chaque fois toutes les bonnes opportunités être anéanties comme un éclair. Cela nous fait terriblement mal. Nous sommes sinistrés. On ne peut pas faire quelque chose d'autre sans que le gouvernement n'intervienne en notre faveur.
Actualité internationale.
Boeing a confirmé hier réduire ses effectifs mondiaux d'environ 10% et diminuer la production de ses avions long-courriers pour faire des économies en raison de la pandémie de coronavirus qui décime le transport aérien et les commandes d'avions. Ces suppressions d'emplois se feront via un programme de départ volontaire et des licenciements secs. Elles concernent principalement la division aviation civile dont les effectifs vont être réduits de 15%, a précisé le directeur général de l'entreprise dans un courrier interne aux salariés en marge de la publication des résultats du premier trimestre.
L'invité.
L'invité de la rédaction ce matin est le docteur Jean-Marie Kayembe, doyen de la faculté de médecine à l'université de Kinshasa. Il est responsable de la prise en charge médicale de cas de Covid-19 en RDC. Il s'exprime notamment sur le dépistage, la prévention et les soins réservés aux malades du Covid-19 en RDC. Docteur Jean-Marie Kayembe est interrogé par Michel Kifindangoy.
Docteur Jean-Marie Kayembe, bonjour.
Oui, bonjour.
De plus en plus, des cas de Covid se multiplient non seulement à Kinshasa, mais aussi à Lubumbashi. Il y a le premier cas au Congo central. Ça devient une situation beaucoup plus préoccupante. Mais seulement, les tests sont centralisés seulement à l'INRB, ce qui fait que beaucoup d'autres malades pourraient être déjà infectés, mais non connus. Est-ce que vous avez pensé à élargir les tests?
Absolument. Élargir les tests passe par deux préalables indispensables. L'acquisition de l'outil pour et des intrants nécessaires, mais aussi le développement de compétences dans le domaine. Il s'agit de techniques nouvelles de biologie moléculaire, pas maîtrisées dans la plupart de nos laboratoires conventionnels. Mais la régulation de cette disposition, croyez-moi, le secrétariat technique dirigé par le professeur Muyembe lui-même, microbiologiste, virologue, a à cœur de développer, de multiplier ce centre. Ce qui suppose un investissement en machines. Il y en a quelques-unes, Dieu merci, chez nous, à l'heure actuelle. Également, former, afin que le diagnostic ne vole pas en tous sens, mais soit plutôt canalisé de manière tout à fait rationnelle et efficace. Oui, c'est à l'ordre du jour, actuellement, de voir comment élargir l'assiette de possibilités diagnostiques dans notre cas.
Certains malades disent, lorsqu'ils appellent pour qu'ils soient testés, les équipes de tests par téléphone ne viennent pas directement ou ne viennent même pas. Il y aurait un certain dysfonctionnement à ce niveau-là.
Nous aimons bien apprendre de tout le monde les dysfonctionnements, d'où qu'ils viennent, sans devoir les occulter. Je pense que c'est ensemble, encore une fois, que nous pourrons trouver des solutions adéquates. Nous avons, nous, aujourd'hui, une approche zonale. Nous reposons l'activité, l'action, sur les zones de santé. Je pense qu'on se plaint régulièrement de certains numéros verts qui passent à peine. Ça, c'est une possibilité, les aléas de la technologie et la lourdeur, évidemment, du système aussi. Mais la zone de santé est plus proche en termes de proximité avec le patient. La plupart des personnes qui veulent en ce moment avoir des réponses un petit peu plus rapides, on s'adresse à la zone de santé, on s'adresse aux aires de santé. Cette décentralisation permet de réduire le plus que l'on peut, en tout cas, les délais constatés par les différentes personnes qui ont besoin d'assistance.
Alors, professeur, les questions de prise en charge hospitalière des cas sévères, tout comme des cas moyens, continuent à se poser, non seulement en République démocratique du Congo, mais partout ailleurs, parce qu'il n'y a pas encore un protocole de traitement rassurant. En même temps, on apprend qu'en Afrique, notamment à Madagascar, il y a un protocole qui n'est pas encore scientifiquement prouvé, mais un protocole tout à fait africain. Est-ce que au niveau de la RDC, le Task Force essaye d'élargir les recherches, voire aussi les initiatives africaines, où on continue à attendre les résultats des recherches en cours en Occident?
Je voudrais là aussi vous rassurer en disant, et nous ne cessons de le répéter, cette nouvelle maladie, la pandémie Covid-19, nous invite tous à énormément d'humilité. Je fais partie du secrétariat technique dirigé par le professeur Muyembe. Dans ce secrétariat technique, nous sommes très ouverts à tout ce qui peut apporter, dans un sens tout à fait réel et éprouvé, des solutions comme on en cherche partout ailleurs. Qu'importe le lieu d'où viendrait la solution, qu'elle vienne de l'Orient ou de l'Occident, du moment qu'elle est éprouvée, pourquoi devrions-nous nous opposer à tout ce qui peut venir? Il y a, dans le domaine scientifique, hélas, quelques exigences, quelques rigueurs. Dès lors qu'elles sont rencontrées, allez, dites-moi, qui pourrait s'opposer à une solution d'où qu'elle vienne? Nous sommes donc très attentifs et ouverts. Nous sommes des conseillers techniques, des décideurs politiques. Et en cette qualité, nous jouerons pleinement notre rôle d'apporter le conseil technique à décision revenant absolument aux politiques.
Docteur Jean-Marie Kayembe, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi.